Merci pour les prières, merci pour votre accueil chaleureux, fraternel. Merci au Seigneur de me permettre d'être au milieu de vous, c'est un honneur et une joie pour moi. Je ne vais pas vous embêter en vous demandant le titre de ma précédente prédication. Vous vous souvenez bien entendu de ce titre, vous n'avez pas à vous inquiéter dans la même épître, mais au chapitre 4, versets 4 à 9. Et nous avions ensemble vu, lors de ce dimanche, quelques aspects de la manière qui permet de ne pas s'inquiéter. Et nous avions conclu ensemble qu'une vie juste est la condition nécessaire pour connaître la paix de Dieu. Alors, cet après-midi, nous allons remonter l'épître et nous allons passer du chapitre 4 au chapitre 3, comme vous le savez. Et j'ai donné pour titre à ces versets 12 à 16, « Il nous faut gagner la course ». Donc n'oublions pas de ne pas nous inquiéter. Et voilà un objectif que l'apôtre Paul nous indique sous l'inspiration du Saint-Esprit. Gagner la course. Dans le chapitre 3, donc le chapitre qui nous intéresse, Paul nous donne sa biographie spirituelle, si on regarde un petit peu les choses. Il nous parle de son passé au chapitre 3, versets 1 à 11. Son présent, ce que nous avons vu des versets 12 à 16 et que nous allons développer ensemble. Et puis son avenir des versets 10 à 21. Et dans ce chapitre, on peut dire que nous voyons Paul courir vers la ligne d'arrivée de la course chrétienne. Il est donc tendu dans cet effort que représente la vie chrétienne. Il considère les choses du monde du point de vue de Dieu. Quand il parle de son passé, de son présent et de son futur, évidemment, il a un regard qui est en quelque sorte le regard que pose Dieu sur les choses du monde, et non pas le regard personnel d'un être humain qui regarde les choses depuis la terre, mais il regarde les événements de sa vie et les objectifs du Seigneur, il les regarde avec le regard de Dieu, avec la pensée divine. Dans ses différentes épîtres, l'apôtre Paul se sert de plusieurs images de notre monde pour illustrer une vérité chrétienne. Par exemple, il y en a quatre d'entre elles qui sont essentielles. Il va parler de la vie militaire lorsque il dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu » en Éphésiens chapitre 6, verset 13. Ensuite, il va parler d'architecture. Lorsqu'il dit aux chrétiens de Corinthe, au chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, un édifice de Dieu ?» Il va nous parler au travers de l'agriculture. « Ce qu'un homme aura semé, dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7, le récoltera aussi. » Et puis là, dans notre 3, verset 12, il illustre la vie chrétienne au travers de l'image de l'athlétisme, puisqu'il dit « Mais je cours ». Donc c'est un athlète en présence duquel nous nous trouvons. Et nous allons voir ensemble quels sont les éléments essentiels pour gagner la course et un jour recevoir la récompense promise, comme nous l'avons lu dans les versets qui ont été affichés tout à l'heure. Premier élément essentiel dans notre course, c'est d'abord le fait d'être conscient du besoin de progresser. Être conscient du besoin de progresser en tant que chrétien. Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Paul, il avait conscience de ce qu'il était, de ses limitations, de ses difficultés. Il avait un regard extrêmement clairvoyant sur lui-même. Et c'est un verset encourageant à plus d'un titre. Pourquoi ? Parce qu'il nous fait voir que Paul aussi considère qu'il n'est pas arrivé et que lui aussi rencontrait des tensions, des luttes et espérait véritablement vivre une vie chrétienne enthousiasmante et une vie d'obéissance. En même temps, il se met au même rang que nous, hein, puisqu'il dit « ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ». Essayons, vous et moi, d'avoir un regard clairvoyant et équilibré, objectif, juste, sur nous-mêmes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont contents d'eux-mêmes, et c'est bien dans un sens d'être satisfait de soi-même, hein. Mais pour quelle raison est-ce qu'ils sont contents d'eux-mêmes ? Ben parce qu'ils comparent leur course à celle des autres chrétiens. Alors c'est évident que si on commence à se comparer les uns les autres, certains d'entre vous, bien entendu, vous allez me communiquer des complexes, mais si je vais dans mon église, je me dis « Oh, ça va, je ne suis pas trop mal par rapport à celui-ci ou celui-là ». Maintenant, les Saintes Écritures nous invitent à nous comparer à Jésus-Christ, et non pas les uns aux autres. C'est vrai que nous sommes appelés à être des modèles les uns pour les autres et à être des encouragements les uns pour les autres. Mais il n'empêche que le véritable élément qui va nous permettre d'être objectifs, clairvoyants sur nous-mêmes, eh bien, c'est de regarder à Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul fait lorsqu'il analyse sa situation. Oui, il n'est pas arrivé, il n'a pas atteint la perfection, parce que quand il regarde à Christ, évidemment qu'il n'a pas encore atteint cette perfection absolue que nous atteindrons, qui nous sera accordée dans la gloire, comme vous le savez. Premier élément, c'est donc être conscient du besoin de progresser. Et si nous n'avions pas conscience du besoin de progresser, demandons simplement au Seigneur, « Seigneur, fais-moi prendre conscience dans quel domaine je dois progresser. » Et vous savez, le Seigneur va vous faire connaître ces choses, hein. C'est une prière selon le cœur de Dieu. Deuxième élément essentiel pour la course chrétienne, c'est la consécration. Chapitre 3, verset 13, Paul dit « Je fais une chose ». Alors là, évidemment, ça devient compliqué pour les Français, parce que faire une chose, on a envie d'en faire plusieurs, hein. Une chose, c'est une expression importante pour la vie chrétienne. Je fais une chose. Dans les évangiles, déjà, Jésus, s'adressant au jeune homme riche qui vient lui raconter tout ce qu'il accomplit dans sa piété juive, Jésus le regarde, le texte sacré nous dit que Jésus aima ce jeune homme, hein, mais il lui dit « Il te manque une chose ». Quand il y a le décès de Lazare, je me trompe pas, hein. Oui c'est ça, il dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Et nous devrions nous aussi nous poser la question, au milieu de tout ce que nous faisons, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes par rapport à cette vocation à laquelle Dieu nous appelle. Et puis il y a le psalmiste au psaume 27, verset 4, qui dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment ». Et c'est vrai qu'on peut dire que trop de chrétiens sont occupés par beaucoup de choses, entre guillemets, quand le secret du progrès est de se concentrer sur une seule chose. Ça demande une discipline, ça demande l'abandon de certaines choses, ça demande de se détourner de certaines pratiques ou de certaines choses attirantes. Mais la vie chrétienne, c'est une vie, comme vous le savez, une vie de disciple, je ne vous apprends rien. Et un disciple, c'est quelqu'un qui se discipline comme un athlète. Un athlète qui veut remporter le prix de la course, il va se discipliner, il va laisser de côté certaines choses. Et j'écoutais dernièrement un athlète qui disait combien sa vie était réglée au niveau de l'alimentation, bien entendu, mais aussi au niveau des heures de sommeil, comment sa journée était réglée. Et il disait, si je fais un écart un peu trop souvent, je vais perdre des capacités. Et la vie chrétienne, Paul nous la compare à un athlète, hein. Je cours, c'est de l'athlétisme. Et nous avons tout intérêt, vous et moi, à nous placer devant le Seigneur, puis à lui demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui est important vraiment dans ma vie ? Et avoir envie de changer les choses. Et donc de se fixer sur les choses essentielles de la vie chrétienne. Les vainqueurs sont ceux qui gardent les yeux fixés sur le but et ne s'en laissent pas distraire. Je ne sais pas si vous avez regardé des sprinteurs, hein. Ils regardent la ligne d'arrivée, tous ces gens-là. Et il y en a qui ont perdu leur titre ou la médaille d'or simplement parce qu'ils ont regardé de côté ou légèrement en arrière. Il ne faut jamais regarder en arrière quand on court. Et ils fixent la ligne. Et un marathonien, c'est la même chose. Ça dure beaucoup plus longtemps qu'un 100 mètres. Mais il fixe la ligne d'arrivée dans sa tête, là. Il l'a, la ligne d'arrivée. Hein. Elle est en permanence présente à son esprit. C'est un petit peu comme quand on regarde un fleuve. Si notre vie était un fleuve, si le fleuve déborde, si notre vie déborde dans toutes sortes de directions, les terrains environnants vont devenir marécageux. Quand il y a des crues, vous savez bien ce qui se passe, et là je ne parle pas du Nil qui fertilise les bords du fleuve, hein. Mais c'est vrai que quand l'eau déborde, les terrains deviennent marécageux. Mais si le fleuve est contrôlé et endigué, il devient une source de puissance. Et notre vie, la vie de chacun d'entre nous, dont nous sommes responsables devant Dieu, nous aurons, vous et moi, des comptes à rendre pour nous-mêmes, hein, et pas pour les autres, eh bien, notre vie est comme un fleuve, et il nous faut donc fixer des guides, faire en sorte qu'elle soit dans le lit qui va la mener, hein, comme un fleuve qui doit être dans son lit, qui va la mener dans cette puissance du service, de l'obéissance et de voir la puissance de Dieu se manifester au travers de nous. Dans le fond, le fait d'endiguer, d'analyser ou de la discipliner, pour utiliser un mot qui est toujours désagréable aux oreilles des chrétiens, en tous les cas de l'église d'où je viens, il faut, c'est une question de valeur et de priorité, le fait d'être chrétien. Il y a des obligations qui sont liées à des valeurs et à des priorités. Et il faut vivre pour ce qui est le plus important. Notre communauté traverse ce mois de septembre avec quelque chose qui, depuis 41 ans que je suis dans cette communauté, n'était jamais survenu. 3 funérailles en un mois. Et les dernières funérailles, c'était vendredi, une chrétienne de 40 ans, mère de famille, laissant 2 enfants et un mari, atteinte par un cancer, et que le Seigneur a rappelé. Ça, c'était vendredi. Mercredi de la même semaine, c'était une sœur de 98 ans, chrétienne de génération en génération, 98 ans, qui est partie aussi rejoindre son Sauveur. Mais le 6 septembre, c'était le mari d'une sœur en Christ qui s'est converti quelques mois plus tôt, touché par un cancer et qui, à 65 ans, a été donc rappelé par son Sauveur. Il y a des priorités dans nos vies, et comme le dit Paul, un jour nous aurons à comparaître et nous verrons si nous avons mené correctement notre existence. Il est de chrétien. Il n'est pas la question du salut qu'on ne peut pas perdre. Hein. Le salut nous est acquis par le Christ et son sacrifice à la croix. Là, il est question de notre vie de chrétien, d'homme et de femme sauvés par le Seigneur pour le servir. Donc, ressentir et être conscient du besoin de progresser, considérer la consécration à laquelle Dieu nous invite. Donc nous consacrer à une chose, ou à un peu plus selon notre situation, mais enfin, il y a peut-être des choses à éliminer dans nos vies. Et puis maintenant, de voir l'orientation de nos vies, l'orientation de nos pensées, l'orientation de notre cœur. Vous savez ce que disent les Saintes Écritures, hein, la bouche parle de l'abondance du cœur. L'orientation, c'est Paul qui dit au verset 13, toujours du chapitre 3 de Philippiens, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Il y a une orientation dans sa course, l'apôtre Paul. Et par rapport à sa propre vie, c'est ça qui est intéressant, on va aborder ce qu'on pourrait qualifier, n'en déplaise à certains, un aspect psychologique de la façon dont Paul se regarde. Spirituellement et psychologiquement, il se regarde. Et il oublie son passé. Et on va voir ce que ça veut dire qu'oublier dans les Saintes Écritures son passé. Et c'est un sujet très important pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes embarrassés, vous et moi, par certains aspects de notre passé. Mais imaginez un instant ce qui se passerait sur la piste de course si les coureurs se mettaient à regarder en arrière. Hein, Paul dit dans l'Écriture sainte, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Est-ce que vous avez déjà vu des sprinteurs, des coureurs qui partent en regardant en arrière ? Jamais. Et pourtant, certains chrétiens auraient cette tendance à regarder en arrière, en avant, en arrière, et des fois à se fixer en arrière pour X raisons. La terminologie biblique, oublier, le verbe oublier, hein, ne signifie pas ne pas se souvenir. Pourquoi ? Parce qu'une personne adulte ne peut pas oublier ce qui est arrivé dans le passé, à moins d'être frappée d'amnésie ou de la maladie d'Alzheimer ou de des règlements particuliers. Mais on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Et quand on croit avoir oublié notre passé, des fois il nous remonte à la surface de notre mémoire, parce que nous sommes des êtres humains et nous avons un passé, un présent et un futur. C'est vrai que nous pouvons souhaiter effacer certains mauvais souvenirs, mais il faut reconnaître que c'est impossible. C'est pas possible d'effacer les mauvais souvenirs. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la Bible, oublier signifie ne plus être influencé ou affecté par quelque chose qui a survenu dans le passé. Quand Dieu promet dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 17, Dieu déclare cette promesse extraordinaire, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit cela ? Dieu ne dit pas qu'il va s'arranger pour avoir mauvaise mémoire. Vous imaginez Dieu qui n'aurait pas de mémoire. C'est impossible. Dieu sait tout, tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer et tout ce qui se passera. C'est impossible que Dieu n'ait plus de mémoire. De la même manière que nous qui avons été créés à son image, c'est aussi difficile, à moins de sombrer dans une maladie. Ce que Dieu dit, c'est la chose suivante, « Je ne leur tiendrai plus rigueur pour leurs péchés. » Dans le fond, c'est même le principe même de la justification. Quelqu'un qui est justifié devant un tribunal, il n'est pas d'un seul coup rendu sans faute. Il est simplement pardonné. Ce qu'il a fait a existé, simplement il est pardonné. Et la justification, c'est la même chose. Dieu pardonne nos péchés. Et il n'en tient plus compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas notre vie passée, il la connaît. Mais il n'en tient plus compte. Leurs péchés ne pourront plus affecter notre position à l'égard de Dieu, ni influencer mon attitude, dit Dieu, vis-à-vis d'eux. Nos péchés ont existé, Dieu les a pardonnés en Jésus-Christ, mais il n'en tient pas compte quand il nous regarde. Il sait que nous avons accepté son Fils comme Sauveur, personnel et Seigneur dans nos vies, donc notre passé n'en tient plus compte. Mais si on lui posait des questions, il sait. De la même manière que quand on a eu une difficulté avec un frère, une sœur, on ne tient plus compte quand on a pardonné, selon le pardon de Dieu, quand on a pardonné à l'autre. Mais des fois, on regarde la personne et on se souvient, ah oui, il y a 10 ans, on a eu telle difficulté. Mais ça n'influence plus notre comportement vis-à-vis de cette personne et ça n'a plus de réaction négative. Le souvenir de cette difficulté n'a plus de réaction négative dans notre cœur, dans notre âme et dans nos sentiments. De même, oubliant ce qui est en arrière signifie simplement que nous brisons le pouvoir du passé en vivant pour le futur. Vous savez, il y a un moment donné dans notre vie où nous devons, en quelque sorte, comme l'on dit, couper le cordon ombilical d'une manière psychologique, hein, par rapport à un passé qui pourrait nous tirer en arrière. Ce matin, j'ai rencontré une jeune femme qui est un contact de notre campagne d'évangélisation, Et puis, est-ce que je vais vous raconter tout ça ? Elle vient nous voir, puis elle dit, voilà, j'ai des liens occultes. Bon. Donc on l'observe, on discute avec elle. Et puis, hier encore, avec un autre ancien, nous avons effectué une visite chez elle pendant plus d'une heure pour prier, pour discuter avec elle. Et puis ce matin, elle est venue au culte. J'ai regardé à la fin du culte et je lui ai dit, tu sais, je ne crois pas que ton problème soit d'ordre spirituel, occulte. Je lui ai dit, je crois qu'il est plutôt d'ordre psycho-affectif. Quand je te regarde, quand je t'écoute, et c'est elle qui me donne les informations, c'est pas moi qui vois les choses en particulier, je lui dis, t'as plutôt souffert de rejet, de négation de ta personne, tu as été maltraité. Et elle m'a dit, oui, c'est ça. Et je lui ai dit, tu es là en train de vaciller sur deux possibilités. Mais je lui ai dit, il me semble que non. Moi, je sens aucun lien dans ta situation. Et quand tu sais, quand les gens ont des liens, là, ça, c'est autre chose qui se manifeste. Hein. Mais je lui ai dit, toi, c'est autre chose. Tu as besoin d'être aimé, tu as besoin d'être en communauté où tu vas être aimé et non plus rejeté, etc. Et elle me regarde, elle me dit, oui, c'est ça. Et nous allons donc avec cette amie l'amener évidemment à la connaissance personnelle du Seigneur Jésus-Christ, et c'est le sujet de nos prières, et en même temps nous allons l'accompagner dans cette démarche de reconstruction de sa personne, parce que Dieu est capable de véritablement, non pas de nous faire oublier le passé, mais changer en quelque sorte l'impact du passé sur notre présent. Et j'ai beaucoup d'espoir quand je pense à cette personne. Je me dis, oh, que ça va être formidable quand Dieu va exaucer ses prières, parce qu'elle prie, elle demande à Dieu de venir en elle et de la changer, etc. Oui, elle ne pourra pas changer son passé, mais elle va pouvoir changer le sens de son passé. Il y a des choses dans notre passé que nous n'allons pas pouvoir changer, hein. Mais par contre, le sens de ces événements peuvent changer par la grâce de Dieu et sa puissance. Il y avait des choses dans le passé de Paul qui auraient pu être un poids et une entrave à son progrès. Si vous prenez votre Bible en 1 Timothée, c'est très intéressant comment l'apôtre Paul s'exprime. 1 Timothée, versets 12 à 17. Première épître de Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17. L'apôtre dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » Rendez compte comment l'apôtre regarde son passé. Mais il dit, j'ai été un homme violent, un blasphémateur, un persécuteur. Mais rejetant ce qui est en arrière, il se porte en avant dans la grâce de Dieu. Et c'était extraordinaire comment le Seigneur a changé le regard qu'il avait sur les événements passés. Et comme nous allons le voir, ça va le conduire à un type de comportement. Ce qu'il décrit l'apôtre Paul dans ses versets de la première épître de Paul à Timothée, verset 12, eh bien, ces choses devinrent une motivation pour le pousser à avancer. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu vis-à-vis de lui, eh bien, l'amène à aller de l'avant au lieu de se dire « Ah, mais j'ai été ceci, j'ai été cela, j'ai subi ceci, j'ai subi cela. » Les événements n'avaient pas changé, mais la compréhension qu'il en avait était différente. Malgré tout ça, Dieu m'a jugé digne d'avoir un ministère. Malgré tous mes péchés, malgré tout ce que j'ai pu subir, malgré mes faiblesses, liées aux difficultés que j'ai rencontrées ou qu'on m'a fait subir, eh bien malgré tout ça, Dieu m'a appelé à lui pour que je puisse le servir. Donc il va produire en moi et m'accorder ce dont j'ai besoin pour vivre à sa gloire. Donc notre passé doit être vu au travers de cette perspective du regard de Dieu, un regard positif, capable de donner un autre sens à notre passé, c'est le sens de la miséricorde de Dieu. J'étais pas capable de faire certaines choses, et là je parle de moi, hein, j'étais pas capable de faire certaines choses, et Dieu m'a rendu capable dans son amour et dans sa grâce. Et c'est vrai que personnellement, je regarde ma vie passée autrement que je ne l'ai regardée pendant quelques décennies, hein, quand j'y pense. Trop de chrétiens sont troublés par le souvenir de leur passé. Et du coup, ils essaient de courir vers le but tout en regardant en arrière. C'est terrible, ça. Et quelque part, il me semble qu'il y a là une œuvre de l'ennemi de nos âmes qui essaye de nous freiner dans notre progression chrétienne. Hein. Il ne peut pas nous enlever le salut, donc il va tout faire pour nous freiner. Et puis, quatrième élément essentiel et dernier pour cet après-midi, c'est la détermination. Au chapitre 3, verset 14 de l'Épître aux Philippiens, Paul est déterminé, il dit « je cours ». Et c'est intéressant parce que ce verbe, il est utilisé dans les versets 12 et dans les versets 14, hein, de notre texte, et c'est un verbe que les Grecs utilisaient pour décrire un chasseur poursuivant son gibier. C'est intéressant quand il y a les analyses textuelles, c'est intéressant de voir au travers des écrits profanes grecs comment et pour quelles raisons et comment ils utilisaient tel mot qu'on retrouve dans les Saintes Écritures ou tel verbe. Et là, on a l'expression qui était utilisée pour un chasseur poursuivant son gibier. Vous savez que dans ce temps-là, on allait à la chasse pour se nourrir, hein, on n'allait pas pour s'amuser comme certains aujourd'hui et rapporter des trophées. C'était vraiment une nécessité première. Et quand vous allez à la chasse, bah, vous suivez votre gibier quand vous l'avez touché et jusqu'à ce que vous puissiez véritablement le récupérer. Il y a donc une détermination. Je dois me nourrir, je dois me nourrir les miens. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose, une détermination pour vivre cette vie de disciple et voir le Seigneur se manifester dans nos vies et donc avoir une pratique de vie obéissante. Dans le fond, on peut dire que le même zèle que Paul avait eu pour persécuter l'Église, au verset 6 du chapitre 3, il le mit au service du Christ. Il était zélé pour être persécuteur, violent. Il est zélé comme disciple de Jésus-Christ. Et quel est le but vers lequel court le chrétien avec une telle détermination? Eh bien, comme le dit le verset 14, c'est le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est une récompense, il y a un prix à remporter, et un prix qui va être partagé. Et nous avons, vous et moi, chacun une course à accomplir qui est différente, selon les plans de Dieu pour chacun d'entre nous, mais nous avons une course, et là nous sommes à égalité parce que nous devons, vous et moi, courir. Et quand nous atteindrons le but, eh bien, nous recevrons la récompense. Peu importe le succès que nous pouvons avoir aux yeux des hommes, nous ne serons récompensés que si nous saisissons ce pourquoi Christ nous a saisis. Peu importe le succès que nous pouvons avoir aux yeux des hommes. Je me souviens d'un collègue un jour qui m'a dit « Écoute Jean, je te vois en tant que chrétien, tu fais ci, tu fais ça, tu vas à l'église quatre fois par semaine, tu... » Il m'a dit « Moi, j'ai pas envie de cette vie-là. » Alors évidemment, lui, il jouissait d'un tas de choses grâce à son salaire et tout. Puis, des fois, on se sent tout petit, vous savez, on se dit « Méprisé, quoi. » Il avait l'air de me dire « Mon pauvre cloche, qu'est-ce que tu fais avec ton Christ et tout ?» Et puis, intérieurement, je me suis dit « Le malheureux, il a tout ce que le monde peut proposer, puis il n'a rien, quoi. » Et puis moi, bah, je me détourne de certaines choses parce que ce n'est pas une difficulté de s'en détourner. Quand l'amour de Dieu nous saisit, on peut passer sur plein de choses. Ça ne nous attire pas plus que ça. Et je me dis, bah, lui, il n'aura pas grand-chose à la résurrection d'entre les morts. Et puis, moi, je suis embarqué dans la course que Christ a prévue pour moi, comme il l'a prévue pour chacun d'entre nous. Et puis, nous remporterons le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est justement ce que Paul dit dans l'épître à Timothée, son testament, quand il dit « Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Voilà donc rapidement brossé quelques éléments essentiels. La détermination dans nos vies. L'orientation, ne pas regarder en arrière, mais regarder en avant. Se consacrer à une ou plusieurs choses, mais pas à une multitude. Hein. Donc ne pas se disperser, se concentrer pour vivre pour Dieu. Ou plutôt laisser Dieu vivre au travers de nous, ce qui est plus évangélique, je trouve. Et puis être conscient du besoin de progresser. Que Dieu nous conduise tous ensemble dans cette vie chrétienne et dans la réalisation, par la grâce de Dieu, de cette vie abondante en Jésus-Christ dans nos corps mortels. Et puis nous nous retrouvons là-haut, couronnés, vous et moi. Et nous pourrons, dans la splendeur du ciel, nous regarder et regarder le Seigneur qui nous aura tout accordé dans sa grâce. Amen.